Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Lors de la précédente chronique westernosophique, j'ai essayé de montrer comment, dans « L'homme qui tue à Liberty Valance » de John Ford, se met en scène la tension entre le fondement du droit, son fondement, c'est-à-dire ce qui lui donne sa légitimité, c'est-à-dire le recours au logos, finalement, à la raison, et, d'un autre côté, son origine historique, qui passe toujours, d'une manière ou d'une autre, par une force qui en surmonte une autre et par un recours à la violence. Alors cette tension se résout dans le film de Ford en partie par le mythe, par la mythification. Le paradoxe central du film, c'est que finalement le film dévoile une vérité à travers ce long flashback où finalement on se rend compte que l'homme qui tua Liberty Valance n'est pas celui qu'on croyait, mais cette vérité ne sera jamais dévoilée puisqu'à la fin du film, à la fin du flashback du moins, le journaliste auquel on confie cette vérité déchire le papier sur lequel il a noté tout ça et où il part avec cette phrase extrêmement célèbre, une des phrases les plus célèbres du western: dans l'Ouest, quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende. Donc finalement, on est ici en plein paradoxe. Le film nous dévoile la vérité, mais nous dit aussi que cette vérité est impossible à dévoiler. Et d'ailleurs, le film lui-même, d'une certaine manière, de Ford, le film assume complètement sa facticité. Il est lui-même une réflexion sur le vrai et le faux. D'abord, Ford avait insisté pour tourner en studio, ce qui est plutôt rare chez lui, qui aimait tant les grands espaces, et notamment Monument Valley. Et puis en noir et blanc, hein, pour accentuer encore cette facticité. Estelle Lépine écrit à cet égard que le choix du studio et du noir et blanc font de ce film une diégèse de l'artificialité. Alors, dans le film, donc, la question de la vérité est absolument au cœur du récit, de même d'ailleurs qu'elle est au cœur globalement du cinéma de Ford, hein, plus généralement. Notamment, cette question de la vérité, elle se joue lorsque Liberty Valance, donc la figure du mal, la figure de la violence totale, s'attaque régulièrement contre Peabody, hein, le journaliste, le patron du journal, justement parce que le journaliste est censé dévoiler la vérité. Or, cette liberté de la presse, qui est donc montré comme une valeur démocratique dans le film contre laquelle Liberty Valance justement essaie de lutter, eh bien cette liberté de la presse sera finalement la possibilité de préserver les mythes et de ne pas révéler la vérité, puisque comme je le disais tout à l'heure, le journaliste va finalement choisir de brûler et de déchirer le récit qui vient de lui être fait. Je renvoie ici l'auditeur à un livre de Jean Collet qui s'appelle « John Ford, la violence et la loi », dans lequel justement Jean Collet écrit que la vérité ne peut être publiée justement parce que c'est une vérité honteuse et c'est une vérité presque impossible à dire, puisque Liberty Valance a été tué non pas selon les codes classiques du duel en face à face, mais par traîtrise, par quelqu'un qui ne voyait pas. Et plus que cela, un grand homme d'État américain a fondé toute sa carrière sur ce mensonge, puisque le jeune avocat Ransom Stoddart qu'on voit dans le flashback est devenu le vice-président des États-Unis, donc un des personnages centraux de l'État.
Vous avez été trois fois gouverneur, trois fois sénateur, ambassadeur à la cour de Saint James, puis à nouveau sénateur. Et d'après ce que je sais, il y a beaucoup à parier que vous serez le prochain vice-président des États-Unis.
Vous n'allez pas publier cette histoire, monsieur Scott?
Non, monsieur. Nous sommes dans l'Ouest, ici. Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende.
C'est préférable.
Alors ici, ce qui est intéressant à analyser, c'est justement le, le cas de conscience du journaliste, finalement. On est dans le cadre ici d'un conflit classique de valeurs, entre d'un côté le respect de la vérité, le respect de la vérité historique en l'occurrence, qui produirait un effet de désenchantement, hein, de démystification. Et puis d'un autre côté, sans doute chez le journaliste, ça, la conscience de ses devoirs de citoyen, et l'idée aussi qu'il pourrait fragiliser l'état de droit, en montrant que finalement cet état de droit s'est construit sur un subterfuge, sur un mensonge et finalement sur un meurtre. L'état de droit, c'est une conquête toujours fragile, surtout à cette époque où la conquête de l'Ouest n'est pas très loin. Et donc le journaliste choisit de préserver l'enchantement, hein, contre le désenchantement, et donc de garder cette idée de miracle, de destin, quasiment d'intervention divine, hein, tellement il était absolument improbable pour le spectateur du film aussi bien que pour le spectateur du duel dans la rue, que Ramsom Stoddard, le jeune avocat de l'Est inexpérimenté au tir, tue cet assassin professionnel qu'était Liberty Valance. Donc ici, en fait, ce qui est intéressant de voir aussi dans le cinéma de Ford, c'est que deux conceptions de l'histoire s'affrontent. D'une part, il y a la conception de l'histoire selon laquelle l'histoire a avant tout une fonction sociale, une fonction politique, d'unification des hommes autour de mythes, autour de grands hommes, de grands personnages, de grands faits. Et puis, une autre conception de l'histoire qui est bien sûr l'histoire comme science, comme discipline critique qui doit reconstruire objectivement les faits. Alors, à cet égard, dans cette tension entre vérité historique et mythe, L'homme qui tua Liberty Valance, qui est une œuvre assez tardive, 1962, hein, c'est un des derniers westerns de Ford, est aussi une méta-réflexion sur le western lui-même. Puisque, on le sait, le western est un des genres, peut-être le genre, qui a le plus tendance à créer et à véhiculer des mythes. À cet égard, donc, le film de Ford, comme tous les grands films peut-être, raconte une histoire, mais il parle aussi de lui-même. Il se met lui-même en abîme. Et il met lui-même en abîme, d'ailleurs, ce qu'est un western et comment ce genre s'inscrit dans la question de l'origine de la nation, en général, bon, de la nation américaine, évidemment en particulier. Dans l'image mouvement, Deleuze écrit ainsi que le cinéma américain, finalement, n'a pas cessé de tourner, de retourner le même film, qui serait justement la naissance d'une nation, la naissance d'une civilisation, et de montrer que pour qu'une nation existe, eh bien, il faut inventer des mythes, notamment des mythes fondateurs.
Messieurs, écoutez, aujourd'hui, nous avons le chemin de fer, mais aussi une population sérieuse, travailleuse, intelligente, des fermiers, des commerçants, des bâtisseurs de cités. Et il faut des routes pour relier les cités, des barrages pour utiliser l'eau du Picket Wire, et notre reconnaissance en état de l'Union pour protéger les droits de chaque homme, de chaque femme, du plus grand au plus humble. Ouais. Comment y parvenir? En voici le moyen. Nous n'avons qu'à voter massivement, messieurs, pour un seul homme. Un seul homme! Lequel homme, messieurs, est devenu célèbre dans tout notre territoire grâce à un exploit qui, en quelques jours, en a fait le champion de la loi et de l'ordre. Mesdames et messieurs, je vous propose donc d'envoyer comme délégué au Congrès de Washington l'honorable Ransom Stoddard.
Deleuze écrit toujours à propos du cinéma en général et de l'homme qui tua Liberty Valance en particulier, que ce qui compte chez Ford, c'est que la communauté puisse se faire des illusions sur elle-même. Je cite Deleuze, « Une communauté est saine tant que règne une sorte de consensus qui lui permet de se faire des illusions sur elle-même, sur ses motifs, sur ses désirs et ses convoitises, sur ses valeurs et ses idéaux, illusion vitale, illusion réaliste plus vraie que la vérité pure. » Fin de citation. Donc, effectivement, l'homme qui tua Liberty Valance est une œuvre qui désenchante en même temps, puisqu'elle nous montre la face cachée de l'histoire, et puis qui choisit l'enchantement, puisqu'elle choisit finalement, le journaliste choisit de ne pas révéler la vérité. Le film de Ford, donc, serait en même temps une réflexion sur le western, et peut-être plus généralement sur le cinéma lui-même, hein, puisque le propre d'une fiction cinématographique, c'est peut-être de dépasser l'opposition un peu binaire entre le vrai et le faux. Non seulement le film de Ford est en noir et blanc et tourné en studio, comme je l'ai dit, mais tous les espaces que filme Ford sont dédoublés. Si l'auditeur a le temps de revoir le film, il se rendra compte que chaque espace du film est doublé par un autre espace qui est en quelque sorte la coulisse, là où se joue la vérité, et l'espace principal étant comme une scène finalement, où on met en scène justement la réalité. C'est le cas par exemple entre la cuisine où se trame le récit et puis la salle de restaurant qui est l'espace public, l'espace de la mise en scène, ou bien encore dans la scène du meeting à la fin du film, entre la salle du meeting qui est donc par définition l'espace public et puis le petit bureau où Tom Doniphone va révéler à Ramsom Soddard la vérité. Deleuze, dans L'image-temps, écrit que le personnage essentiel du cinéma moderne, c'est le faussaire, justement. Le faussaire, c'est celui qui fabrique l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire. Donc, Ramsom Soddard, finalement, est un personnage intéressant dans le film. Ramsom Soddard, qui est interprété par James Stewart, parce que c'est un personnage qui va gagner, tout au long du film, en ambiguïté. Il sera à la fois le bénéficiaire, la victime et le complice du processus de mythification. Et donc le personnage de Ramsom Soddard permet de réfléchir sur la question donc, de l'unité de la personne humaine qui sera en l'occurrence l'objet de la prochaine chronique westernosophique.
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.grenouille888.org.